Voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine. Et aujourd'hui, pourquoi les élèves en France sont parmi les derniers en Europe en mathématiques? Un sacré paradoxe, car la France talonne toujours les États-Unis sur les premières marches du podium des pays distingués par la médaille Fields, considérée comme le Nobel des mathématiques. Alors nous allons revenir sur la dernière étude TIMSS, paru il y a quelques mois et qui nous révèle que le niveau des élèves de classe de CM1 et de 4e donc au collège en maths et sciences en France classe en effet la France dans les derniers rangs. Quelles conséquences aussi à moyen terme? Comment inverser la tendance? Nous allons en discuter avec nos invités. Monica Nigoy, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes ex-professeure de mathématiques à l'université de Georgetown aux États-Unis à Washington. Vous êtes une didacticienne en mathématiques et vous avez été membre de la commission Villani-Torossian sur la réforme, comment améliorer le niveau en maths des élèves. Et vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment sur la fameuse méthode de Singapour. Singapour qui figure parmi les premiers pays pour son niveau des élèves en mathématiques. Jean-Yves Chevalier est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de mathématiques en classe préparatoire aux grandes écoles dans un grand lycée parisien. Également avec nous, Salim Brighi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un jeune professeur de mathématiques, 28 ans. Vous enseignez en collège et lycée et maintenant à l'université aussi auprès de futurs enseignants de primaire dans le nord de la France. Et surtout, vous êtes youtubeur. Votre chaîne YouTube Mathématim, il y a un jeu de mots. Vous enseignez des notions en 5 minutes chrono, hein, pratiquement, avec des références qui parlent aux jeunes, références musicales notamment, hein, Salim Brighi.
C'est ça, c'est parfaitement résumé, c'est exactement ça.
Et chez vous, les voisins et les voisines, dites-nous où en est le niveau en maths. On attend vos réactions d'enseignants, de parents. Appelez-nous dès maintenant, surtout n'attendez pas la fin de l'émission. 33 7 64 45 51 41. Et puis en fin d'émission, la chronique du psychologue Ibrahima Girou, comme chaque semaine. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
7 milliards de voisins. C'est sur RFI.
Mais tout de suite, écoutez un extrait d'une célèbre émission de radio sur France Inter, Le jeu des 1000 euros. Vous connaissez tous, à mon avis, parmi les invités. Il y a quelques jours, les candidats étaient tous des collégiens, avec une bonne culture générale d'ailleurs. Et pourtant, ils ont calé sur une question simple en maths.
Un carré a une aire d'un hectare. Quelle est la longueur en mètres de son côté?
Un hectare, c'est égal à un hectomètre carré, du coup...
Un kilomètre carré, je crois.
Non, je crois que c'est un hectomètre carré. Ça donne...
Ça ferait 500 mètres carrés, peut-être.
Moi, je propose
500 mètres de côté.
Alors toi, Aubin, tu nous proposes combien?
500 mètres de côté.
500 mètres. Et toi, Zoé? Tu valides la réponse d'Aubin?
Oui.
5, hein, c'est ça? 5?
500 mètres.
500 mètres, on a bien entendu ta réponse. Eh bien, la réponse, c'était 100 mètres, puisque un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, le côté de ce carré, qui fait 10 000 mètres carrés de superficie, c'est 100 mètres. 100 fois 100 égale 10 000, donc un hectare.
Salim Brighi, c'était pas si difficile la question, non, pour des collégiens?
C'était pas si difficile. Après, c'est vrai que on a des explications pour ce type d'erreur. On peut essayer de les comprendre aussi quand même.
Ouais, 500 mètres de côté, c'était pas tout à fait ça quand même. Hein. Ils étaient
Ouais, c'était pas du tout ça.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Yves Chevalier?
D'abord, c'est assez curieux cette anecdote parce que c'est une question que je pose à mes élèves de classe préparatoire aux grandes écoles. Oui, en fin de devoir, je leur pose des petites questions comme ça. Quel est le rayon de la Terre? Quelle est la surface, la superficie d'un hectare en mètre carré? Et sur 48 élèves, j'en ai 12 qui donnent une bonne réponse pour un hectare. Alors vous voyez que ce n'est pas seulement les collégiens qui sont en cause. Et je vous rappelle aussi que un ministre de l'Agriculture interrogé à la télévision, on lui avait posé la même question, et en tant que ministre de l'Agriculture, il n'avait pas su répondre.
Et je vois aussi autre chose, je vois la confusion entre une pensée multiplicative et additive. Quelque part dans la tête de l'enfant, le 500 et le 500 donneraient ensemble 1000 ou 10 000. Et donc au lieu de faire 1 fois 1 donne 1, il donne 5 et 5.
C'est ça, parce qu'ils auraient pu se tromper de 0, additive. Mais là ils se trompent, ils disent 5. Ça
parce
peut pas être 5, c'est forcément
5 un 5 donne 10. Donc c'est l'addition au lieu de la multiplication. Et la pensée multiplicative n'est pas naturelle et c'est difficile. Et il faut la construire dès le début.
Ouais. Alors, il faut la construire dès le début. Pendant longtemps, la France se rassurait avec son élite. On disait, oh, mais il y a des très, très bons élèves en mathématiques. Et là, on se rend compte qu'effectivement, l'étude TIMSS présente des failles, présente des aspects inquiétants, hein, puisque cette étude internationale montre que les collégiens français de 4e ont aujourd'hui le niveau des élèves de 5e en 1995, donc en 25 ans, la France a perdu l'équivalent d'une année de classe en termes de niveau. Et puis à l'école primaire, c'est pas brillant non plus. Comment est-ce qu'il faut lire cette étude? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qui se passe, Monica Niégoï?
Alors, j'aimerais commencer par le positif, au lieu de blâmer, et dire, je crois que mes collègues ici avec moi sont d'accord, que nos professeurs, comme nos élèves, sont avides d'apprendre, curieux de découvertes et désireux de voir la beauté des maths. Je crois que Cédric Villani a bien résumé quand on a rendu au ministre le rapport de la mission maths. Il a dit il y a quelque chose avec lequel tout le monde était d'accord qu'on a auditionné pendant les mois qu'on a travaillé, c'est que nous avons abandonné nos professeurs. C'est-à-dire, si on ne leur donne pas les outils, si on ne leur donne pas des formations, si on ne donne pas les stratégies à enseigner avec sens, avec beauté, avec raisonnement, qui vont ensuite passer à leurs élèves, alors on aura les résultats qu'on a. Mais nos enfants et nos profs ne sont pas pire que des enfants dans le monde entier. Ils sont tout à fait capables et ont le potentiel d'être excellents. Ouais. Et là, on est dans une nouvelle phase et on est en train d'essayer de leur donner des nouvelles formations parce que moi, je fais depuis 5 ans avec des milliers de profs de toute la France, toutes les académies, et tout le monde veut apprendre et ils s'émerveillent quand ils donnent et trouvent du sens dans quelque chose. Donc le sens, il ne faut pas l'oublier.
Alors, encore faut-il recruter des professeurs de mathématiques. Le nombre de candidats au CAPES en maths a baissé de 17% en 4 ans. Quand vous nous dites « tout le monde adore les maths », si on fait une émission sur le traumatisme des mathématiques, je peux vous dire que le standard va sauter. Ce n'est pas le sujet. Mais non, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la France adore les maths, Jean-Yves Chevalier.
Non, je pense pas. Je suis parfaitement d'accord avec ma collègue sur le fait que tous les enfants sont susceptibles d'accéder à la beauté des maths. Je suis aussi d'accord avec elle sur le fait que, évidemment, un enseignement de maths perd tout son sens si on ne lui donne pas, on ne donne pas du sens à ce qu'on fait. Et je suis aussi d'accord avec elle que la mission Torossian-Villani a accouché des meilleurs programmes qu'on ait eus depuis extrêmement longtemps. Par contre, je pense que les méthodes, aussi bonnes soient-elles, ça ne suffit pas s'il n'y a pas une volonté politique derrière. Et c'est ce qui nous a manqué pendant les 30 dernières années.
Oui. La réforme du lycée, il y a plus de maths après la seconde pour un certain nombre d'années, alors qu'avant, moi de mon temps, on avait des maths obligatoires jusqu'à la terminale, y compris avec un bac littéraire, hein, avec des cours qu'on suivait avec plus ou moins de difficultés. Mais est-ce que ça ne va pas assécher un vivier de futurs profs de maths encore plus?
La question s'adresse à...
Au prof du lycée, justement, prof de prépa, ce serait pas mal d'entendre votre idée.
Écoutez, je pense que dans cette réforme, il y a une part de nécessité qui fait loi, c'est-à-dire que on s'est dit qu'on avait peut-être plus trop les moyens, vu la raréfaction des candidats, justement, etc., d'enseigner à tout le monde et qu'on a essayé de faire en sorte d'enseigner plus à ceux qui étaient très intéressés par la matière. Donc, je pense qu'en plus, la mise en place de cette réforme avec la crise que nous vivons va accoucher sûrement de certaines de dysfonctionnements assez majeurs. Mais parce que on ne sait pas bien ce qui se passe dans les établissements, enfin ce qui s'est passé dans les établissements pendant le confinement. Là, pendant le, là, il y a des, la plupart des lycées sont en demi, en demi-présentiel. Or, un enseignement, et particulièrement quand vous voulez donner du sens à quelque chose, l'enseignement, il est corporel, il est, il passe par la présence. Ouais. Ça, c'est absolument certain.
Salim Brighi, vous maintenant, vous enseignez auprès de futurs enseignants d'école primaire. Qu'est-ce que vous constatez ?
Écoutez, concernant le concernant la volonté des étudiants à accéder à ce métier, on a toujours énormément de personnes qui sont intéressées pour enseigner en primaire.
Mais pour les maths, pour le niveau en maths.
Mais pour les mathématiques, c'est vrai que ça reste majoritairement leur bête noire au concours. Si vous voulez, à ce concours-là de recrutement, on a deux grands volets, c'est le français et les mathématiques. Le français, en général, sans rien enlever à sa complexité, en révisant, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Il y a peut-être même du sens dedans. Alors que les mathématiques, c'est vrai que pour certains qui sont sortis de parcours littéraire, justement, ça peut vite virer à la catastrophe.
Mmh. Oui, je sais que c'est la bête noire des professeurs, en effet, du primaire. Il y a quelque chose dans les recherches qu'on voit, qu'enseigner les autres matières, c'est participatif, c'est interactif, on sollicite les idées des élèves, on construit dessus, et il y a un dialogue, c'est participatif. Il y a quelque chose de spécial avec l'idée d'enseigner les maths au primaire, ça devient très transmissif. Vous ne savez pas, je vous dis, parce qu'on ne va pas ouvrir la discussion pour chercher, pour communiquer, pour représenter, qu'est-ce que tu en penses ? Alors que si on ne fait pas ça, on éteint la flamme, on éteint le raisonnement, ils deviennent passifs, ils deviennent réceptifs et ils apprennent. Ça devient une litanie de formules, une litanie de règles, une litanie.
Et oui, dans la tête d'un institut, une table de multiplication, c'est une table de multiplication. Qu'est-ce qu'on pourrait débattre sur 3x3 ?
Parfait exemple. Hier soir, j'avais une formation en ligne. Il y avait un prof de collège qui me dit, j'ai été sidérée quand mon élève m'a dit, quand je lui ai demandé combien vaut 12x3, il me répond, mes tables de multiplication se sont arrêtées à 10. Vous voyez ? Donc l'idée de décomposer le 12 en 10 plus 3 et de multiplier 10 par 3 et 2 par 3 et les ajouter n'était pas là comme stratégie. Et pourtant, c'est si simple que si on leur enseigne, ils l'acceptent, ils l'apprennent immédiatement. Mais ça n'a pas été enseigné, ça n'a pas été. Un autre exemple très fort, c'est 164 divisé par 4, un problème de CE2 qui était dans un problème à résoudre. Et les profs me disent, oh, ça c'est difficile pour les CE2. Et je leur demande, est-ce que vos élèves pensent que dans 164, il y a 16 dizaines et 4 unités ? Ah non, eh ben, 16 dizaines, 4 unités, ça fait 40 et 1, 41. Voilà. Il y a ces choses qui manquent, mais ils sont capables si on leur enseigne.
Alors, puisqu'on est au cœur des méthodes et des programmes, est-ce qu'il y a un problème à l'école primaire de décomposition des nombres, par exemple, Salim Brighi ou Jean-Yves Chevalier ?
Je vais prendre la parole et je la passerai à Jean-Yves juste après s'il veut participer. Par rapport à ça, Monica a parfaitement résumé par rapport aux tables de multiplication. C'est vrai que, et on enseigne aussi à des enfants. Donc si vous voulez, si vous bornez le raisonnement en bloquant à 10, ils vont, pour certains, il y en a peut-être des curieux qui vont chercher plus loin, mais la majorité des enfants vont se cantonner à ce qu'on va leur enseigner. Donc si vous, en fait, si les tables de multiplication apparaissent comme des tables de savoir, et qu'il n'y a pas de manipulation derrière, la décomposition, elle ne sera pas évidente pour la majorité des élèves.
En gros, il n'y a pas d'enquête jubilatoire avec les maths à l'école primaire, si je vous comprends bien.
Comment ça, quand vous dites enquête jubilatoire ?
C'est ce que disait Monica, finalement. C'est de chercher, de tâtonner, de raisonner, d'échanger des hypothèses.
C'est ça qu'il faut. C'est la pensée. Mais je veux donner la parole au troisième qui voulait parler.
Jean-Yves Chevalier,
après, je reviens.
Professeur de mathématiques en classe préparatoire.
Oui, mais je vais revenir à autre chose que classe préparatoire. Mon épouse était dans la fin des années 50, le début des années 60, en classe dans une école primaire de Malakoff, banlieue communiste, pas spécialement favorisée. Et elle a encore le souvenir ému de son institutrice qui lui demandait d'apporter tous les objets cylindriques qu'elle connaissait. On prenait des ficelles, on entourait la base, on mesurait la base, on divisait par le diamètre et on trouvait toujours la même chose. Et ce nombre, c'était pi. Et je pense que sa vocation de mathématicienne est venue là.
C'est un bon exemple parce que vous citez un exemple concret où on manipule. Oui, rien n'est plus concret que de faire de la géométrie de cette façon-là, Jean-Yves Chevalier.
Oui, je suis bien d'accord. Et je pense que quand on parle de méthode de Singapour, etc., moi, je ne suis pas du tout un spécialiste. Je trouve ça tout à fait intéressant, mais j'ai l'impression de retrouver l'école de mon enfance.
C'est ça.
Autrement dit, je pense qu'on invente quelque chose qu'on a déjà inventé, mais qu'on a oublié entre-temps, c'est tout.
Mais alors, qu'est-ce qu'il
faudrait se poser la question de savoir pourquoi on l'a oublié.
Mais alors, il y a eu un problème dans les programmes scolaires. Qu'est-ce qui s'est passé, Monica Nigoy, voilà. Pour qu'on oublie les mathématiques concrètes. Est-ce qu'on passe trop vite à l'abstraction pour un enfant ?
C'est ça. Et comme vient de dire mon collègue, ce n'est pas une invention, parce que quand Singapour, jusqu'à leur indépendance, avaient toujours importé des livres. Et quand enfin ils se sont mis à créer leur propre cursus, curriculum, ils ont regardé les stratégies, les recherches qui ont fait leurs preuves. Et bien sûr, on les reconnaît. Hein? Et donc, les mathématiques, c'est un sport participatif. Ce n'est pas un sport de spectacle. Donc, un enfant, on doit mettre le haut-parleur sur sa pensée pour qu'il participe, pour qu'il dise ce qu'il pense, et on fait avec. Un autre exemple, c'est magnifique avec la corde et le... Un autre exemple, c'est les volumes, par exemple. Oh, c'est des formules difficiles. Eh bien, si on apporte un cylindre, on apporte un cône, on apporte une sphère, et tous ont le même diamètre, et on leur demande, comme dans un spectacle, qu'est-ce que vous pensez de leur volume ? Ils vont dire, je crois que ça, c'est le plus petit, ça, c'est le plus grand. Quelle est la relation ? Oh, je crois qu'il y a 5 fois, 2 fois. Allons-y. Donc, vous avez mis émis vos hypothèses. Maintenant, on va prendre de l'eau dans le cône et on va mettre dans la sphère et puis on va le mettre dans le cylindre et on voit une belle relation de 1 à 2 à 3. Ils ne vont jamais oublier. Ils l'ont vu, ils l'ont fait avec leurs mains, ils ont mesuré, ils ont deviné et après, ils voient. Voilà. Avec la ficelle, c'est pareil. On découvre pi et on comprend pour toujours que c'est... un peu plus que trois fois le diamètre. Mais les gens, quand ils appellent des formules, ils pensent que pi, c'est un nombre arbitraire qui vient de je ne sais pas où et qui n'a pas de sens. Voilà. C'est rien de nouveau.
Ça veut dire qu'on fait, en fait, trop rapidement des mathématiques sur le papier uniquement.
Voilà, on brûle les étapes, on brûle le concret, on brûle le langagier, le verbal, on ne met pas le haut-parleur sur la pensée et on va assez vite, trop vite, au symbolique qui, pour beaucoup d'enfants, ne leur parle pas.
Est-ce qu'il y a un problème avec les 4 opérations ? Normalement, elles doivent être acquises à l'école primaire ou c'est plus tellement le cas ?
Alors, c'est le cas et on l'a redit dans la mission, c'est-à-dire, bien sûr, on va se concentrer au cycle 2 sur l'addition, la soustraction et au cycle 3 plus sur la multiplication, les divisions, la proportionnalité, mais les 4 opérations sont introduites dès le début, sans nécessairement peut-être le symbole ou bien sûr sans poser. On fait des histoires de multiplication, on fait 5 sacs avec 3 pommes, c'est clair que c'est 5 groupes de 3. On fait des histoires de partage pour la division et on fait aussi des histoires de groupement, c'est-à-dire faire des groupes égaux, parce qu'il y a au moins 2 sens de la division, il y en a d'autres après. Et donc les enfants n'ont aucun problème de représenter, de mettre en scène, moi je vais même dire, de mettre en œuvre, de mettre en scène comme un spectacle, une histoire de division, une histoire de multiplication. Qu'est-ce qu'ils adorent ça ? Ils adorent inventer des histoires d'eux. Donc, ça donne du sens, ça relie les opérations comme des actions à notre quotidien, mettre ensemble, réunir, séparer, diviser, partager. Tout ça, ça commence par le réel et après, ça se formalise progressivement.
Alors, ça, c'est pour l'école primaire. Voilà. Salim Brighi, vous vous enseignez en collège et en lycée. Alors, vous avez créé d'ailleurs votre chaîne YouTube dédiée aux maths pour dédramatiser les concepts.
Oui, c'est exactement ça. En fait, à mon niveau, dans ma classe, c'est vrai que je m'appuie énormément sur leurs références, que ce soit musicales, culturelles, sur Internet, tout ce à quoi ils ont accès. Et après, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je le fais avec mes élèves, je pourrais le faire sur Internet pour aider d'autres élèves aussi. Et les retours, c'est tout le temps les mêmes. Donc, ce que disaient Monica et Jean-Yves ici, c'est vraiment, il leur faut du concret. Voilà. Dès qu'ils voient l'utilité ou que ce qu'ils apprennent à l'école, ça se retrouve aussi dans la rue, sur Internet ou dans leur vie concrètement.
Ouais. Donnez-nous un exemple.
Alors un exemple tout bête, j'avais les équations. Les équations, c'est on va dire un premier pas vers les maths, vers l'algèbre en soi, parce qu'on a des lettres, on a des X. Et je me suis dit simplement, je vais prendre le rappeur du moment et on va s'intéresser à sa paire de baskets. Et sa paire de baskets, donc j'avais regardé sur Internet, elle lui donnait 4 cm de plus au niveau de la taille. Et je me suis dit, voilà, je ne vous dis pas le rappeur, il mesure combien. Je vous dis juste que quand il met cette paire de baskets qui lui fait gagner 4 cm de hauteur, il mesure 1,82 m.
Ouais.
Donc de là, j'avais montré même cette vidéo à deux petits cousins qui étaient à l'ouest avec les maths, qui n'aimaient pas du tout. Et ils m'ont tout de suite dit « Ah, bah, il fait 1m78
ouais, ».
Ouais. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on se dit dans une salle de classe, on est complètement perdu. Et face à un mini-clip vidéo, bah, ça y est, on se découvre des compétences mathématiques.
Et voilà. vous débloquez une forme de motivation. Hein,
comme vous avez parlé justement d'une équation, justement hier encore dans une formation, je vous donnais un exemple simple. C'était au primaire, donc on n'a pas encore les X, mais on avait un dessin, cette méthode en barre qui nous aide à résoudre des problèmes. On avait 6 rectangles. Plus 10 égale 76. Comment on explique ça au primaire? On imagine une balance. À gauche, on a 6 rectangles, donc 6 cubes, mettons, avec 10. Et à droite, on a 76. Pour équilibrer, on va enlever 10 des deux balances et on aura 6 rectangles égale 66. Eh ben, c'est facile. Un des rectangles vaut 11. Bon. Alors, le prof de collège me dit, vous savez comment on le dit? J'ai dit, je sais, dites-le, parce que moi, j'ai fait l'école française, même si j'étais aux États-Unis. On dit, je passe le 10 de l'autre côté et je change de signe. Ça devient un truc que je fais comme un perroquet, je ne comprends pas.
Oui.
Mais voir que ça veut dire enlever 10 des deux côtés, et par conséquent, il y a un moins 10 à droite, ça préserve le sens d'une égalité comme une équivalence, comme une balance. À gauche, il y a la même valeur qu'à droite.
Ouais. Alors ça peut sembler très simple, hein, s'il suffisait de changer la façon d'enseigner, d'introduire tout simplement une balance de cuisine dans la salle de classe.
C'est ça.
Mais bon, il y a peut-être aussi d'autres choses plus compliquées. On va en discuter. Et chez vous, les voisins, où en est le niveau en maths? On attend vos réactions d'enseignants, de parents. Vous pouvez nous appeler sur le WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, on va donner la parole à un voisin qui est prof de maths au Togo. Mais tout de suite, tiens, si on faisait des maths plus du rap, le résultat égal, donc, c'est Great Teacher Isaba, prof de maths.
Si aujourd'hui je prends le micro, c'est pas pour me la jouer balèze. C'est qu'après Pythagore, y'a le théorème de Thalès. On reste sur les triangles, mais il en faut deux qui ont un sommet en commun. Alors trouve-le, y'a deux triangles et y'a deux configurations. Soit ils sont emboîtés, soit en mode papillon. Dans les deux cas, faut vérifier l'alignement. En gros que les cinq sommets tiennent sur deux segments. Faut absolument qu'il y ait deux côtés parallèles. Et tout ça, faut que tu l'écrives, ouais, n'est pas la flemme. Sans ça, ce n'est pas la peine d'utiliser le théorème. Il faut trois conditions, si t'en manques une, et ben c'est faux, man. Toi, tu les as, tu veux la suite, mais avant, on dira de nos deux triangles qu'il y en a un petit et un grand. Et ben leurs côtés sont proportionnels, et prends-les dans l'ordre. Y a problème. En gros, en multipliant les côtés de l'un par une même valeur, t'obtiens les longueurs de l'autre. Je te conseille de partir du sommet commun et des côtés alignés, ça t'évitera de faire des fautes. Et ça, toi, t'en es peut-être pas conscient, mais c'est la même que l'égalité des trois quotients. Les côtés alignés entre les parallèles, tu regrouperas. Et il faut que tu partes du même triangle à chaque fois. Et là, on doit remplacer tous les côtés qu'on connaît à l'aide de l'énoncé ou d'une figure bien codée. En fait, le quotient, c'est le résultat d'une division. Celle-ci, c'est pour ceux qu'on fait leur sixième dans un buisson. Donc tu remplaces et tu retiens le quotient dont on connaît les deux longueurs. C'est important, c'est grâce à lui que tu pourras faire ton produit en croix. Tu sais pas ce que c'est, j'en parlerai peut-être une autre fois.
Thalès, Pythagore, tout y passe, les probabilités. Un professeur de maths de Seine-Saint-Denis qui rappe ses leçons pour aider ses élèves à réviser. Ça marche bien sur YouTube. On discute en tout cas du faible niveau en mathématiques des élèves français évalués par l'étude internationale TIMSS. Les élèves de CM1, donc c'est l'avant-dernière année d'école primaire et la classe de 4e au collège. On en discute avec vous. Monica Neagoy, Salim Brigui, Jean-Yves Chevalier, vous êtes tous impliqués dans l'enseignement des mathématiques à différents niveaux. Et on écoute le message qui a été posté par une auditrice, Mariama, qui est à Dakar.
Pour moi, les maths, c'était un objet de torture. Je faisais tout pour y arriver, mais rien à faire. Et c'est l'occasion de rendre un hommage à tous mes professeurs de mathématiques. Et particulièrement à mon prof de mathématiques classe de seconde C, première D et terminale D, du nom de Jean Lacroix. Ok, c'était au collège Pudouze de Kaolack. Les bisous, les voisins.
Voilà, ça, si on lance le débat, je vous dis, sur les traumatismes des mathématiques, on va pas s'en sortir. En tout cas, voilà le message de Mariama. Tiburce aussi livre son point de vue. Je vous laisse commenter, Monica Niagoy, puisque vous êtes franco-américaine. Tiburce est à Libreville, au Gabon. Il nous dit « Le système français a mystifié les mathématiques depuis les petites classes, en adoptant des méthodes rendant la compréhension des maths complexe aux yeux de l'apprenant. Dans le système anglo-saxon, c'est le contraire. » Système anglo-saxon, si on regarde l'étude TIMSS, c'est vrai que l'anglo l'Angleterre est bien placée, l'Irlande bien placée également. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je crois on va reculer avant même la matière, on va parler des émotions. Ce n'est pas pour rien que dans la méthode de Singapour, ils rappellent l'importance des latitudes. Ça me fait souffrir quand j'entends que les maths, c'est un objet de torture. Mais si on a aussi entendu quelque chose à la mission, beaucoup, c'est que les gens disent qu'en France, et ce n'est pas seulement en France, hein, je travaille dans d'autres pays, c'est vrai aussi, mais on va dire en France, parce que c'est ce qu'on a entendu dans la mission, il y a trop d'adultes qui sont, ou de jeunes très vite, qui deviennent fâchés avec les maths. Alors, en effet, si l'attitude des adultes autour des enfants dans les classes, que ce soit dans la classe, que ce soit les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les gens qui ont de bonnes intentions mais ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, ne donnent pas cette confiance à l'élève, malgré ses erreurs, qu'il va apprendre par ses erreurs et peut réussir. Et si on le fait croire qu'il est nul en maths, qu'il ne va jamais réussir, qu'il est cancre, ou qu'on le humilie dans la classe, qu'il manque de bienveillance, qu'il y a beaucoup en Amérique, même si on n'est pas excellent en maths, on a une bienveillance, alors l'enfant devient, son cerveau limbique, qui est le lieu de ses émotions, le paralyse, le fâche tellement qu'il ne peut même pas solliciter le lobe frontal qui est l'analytique pour réussir et faire le raisonnement mathématique. Donc on braque les enfants dans l'émotion, alors que quand ils sont petits, c'est là où on doit les encourager, être ludique avec eux et leur animer cette flamme et ne pas éteindre cette flamme. Parce qu'une fois qu'on arrive au collège, si pendant 6 ans j'ai été convaincue, ou 5 ou 4, ça dépend si maternelle est inclue, si je suis convaincue que les mathématiques c'est pas pour moi, que c'est, je suis nulle, que c'est une torture, c'est très difficile de ranimer
la flamme. Monica Niagoy, un enfant, il est surtout très vite convaincu que c'est les maths qui vont le sélectionner toute sa carrière. Scolaire. C'est Jean-Yves Chevalier, vous êtes professeur de mathématiques en classe préparatoire. Et c'est vrai que même pour les concours aux écoles de commerce, même pour faire médecine, si vous êtes mauvais en maths en seconde, c'est fini. Jean-Yves Chevalier. Ah,
c'est sûr que les mathématiques ont joué un rôle dans la sélection. Mais je pense qu'elles l'ont joué depuis extrêmement longtemps et que ce n'est pas ça qui explique la dégringolade qui nous est arrivée. Alors, je suis d'accord avec ma collègue que on apprend par ses erreurs en mathématiques, donc il faut valoriser l'erreur.
Voilà.
Ça, c'est absolument certain. Par contre, sur la bienveillance, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès de ce point de vue et que ce n'est pas vraiment ça qui est en cause. Je pense quand même qu'il faudrait quand même qu'on puisse revenir aux raisons politiques qui ont fait qu'on se retrouve dans cette situation. Je vais vous lire une phrase. « Les maths sont en train de se dévaluer de manière quasi inéluctable. » Désormais, il y a des machines pour faire des calculs. Cette phrase, elle a été prononcée par un ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre,
oui.
En l'occurrence.
Très populaire auprès des enseignants.
Bon, donc, vous imaginez que dans ces conditions, alors effectivement, il y a une cause médiologique à ce qui nous arrive, dans la mesure où le numérique qui utilise énormément de maths a un fonctionnement qui va à l'envers des mathématiques. Les mathématiques ont toujours une démarche inductive, c'est-à-dire on cherche à savoir pourquoi.
Voilà.
Alors que dans le numérique, on cherche à avoir un effet. Donc au lieu de chercher les causes, on cherche les effets. Donc si ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas grave, mais on fait autre chose et ça marche.
Ouais. Enfin, ceci dit, pour apprendre à coder informatiquement, il vaut mieux être bon en maths
bien
quand
sûr.
Même. Hein.
Et puis d'autre part, ça n'explique pas pourquoi ça arrive en France, alors que cette raison-là pourrait se retrouver dans d'autres pays.
On va y revenir au problème du niveau en maths et puis des conséquences sur l'économie du pays, Jean-Yves Chevalier, parce que je sais que vous avez des choses intéressantes à nous dire, mais je voudrais qu'on donne la parole à des auditeurs qui veulent s'exprimer au 33 7 64 45 51 41. On accueille Stéphanie qui est à Lomé, qui est architecte, je crois. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez entamé une reconversion professionnelle pour devenir architecte, c'est bien cela ?
C'est cela.
Et vous avez été confrontée à votre niveau en maths ?
Ah oui, tout à fait.
Ouais.
Donc moi j'ai 38 ans, j'ai d'abord étudié Sciences Po, développement, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le développement en Afrique. Voilà, à cet âge-ci, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'était pas ça que je voulais faire au départ. À 18 ans, je voulais être architecte. J'ai pas osé le faire parce que j'avais pas le niveau en maths, ça c'est sûr.
Ouais.
Et je pense qu'avec la maturité, je me suis dit, bon, je suis capable de le faire et je me suis lancée. Donc, en septembre dans ces nouvelles études. Et ceci dit, j'ai été très rapidement confrontée à ce problème des maths qui, en plus en architecture, ont des applications dans beaucoup d'autres matières.
Et comment vous avez fait ?
Alors, bon, alors déjà, il y a un passage psychologique, il y a une question psychologique à dépasser, c'est-à-dire se dire qu'on a le courage et les capacités. Donc, comme je le disais, avec de la maturité, évidemment, c'est très différent qu'en étant à 15-16 ans étudiant.
Oui, vous aviez du recul sur vos propres peurs, quoi.
Voilà, et puis un objectif très concret. Et surtout, j'ai découvert des ressources en ligne qui étaient super intéressantes, notamment un site qui s'appelle Les Maths en Tongue, qui a été créé par un jeune professeur de mathématiques qui est arrivé à ce même constat que les élèves ont toujours un problème de limite qui est surtout dû à leur compréhension de ce qu'on leur demande. Et donc, il a vulgarisé les matières de 3e, 2e, 1e pour que les élèves puissent arriver en terminale avec un niveau pratique, en fait, qui leur permette de réussir leur terminale.
Et grâce à ça, vous vous en sortez.
Oui, c'est fascinant parce qu'en fait, ce monsieur, clairement, m'a fait dépasser ma peur des mathématiques, ça c'est sûr, mais il a une méthode aussi qui est très concrète, tout simplement, qui est très simple, en fait. Et il rend les mathématiques extrêmement simples.
Salim Brighi, vous connaissez cette méthode de cet enseignant sur Internet, les maths en tongue, ça vous dit quelque chose ?
Oui, de nom, j'avais déjà entendu. Quand je m'étais lancé, justement, j'essayais de regarder ce qui se faisait sur Internet et ce nom m'était arrivé aux oreilles, mais je ne sais pas du tout, enfin, je ne me suis pas penché sur son travail.
C'est vrai qu'en tout cas, Internet a franchi les enseignants de mathématiques des programmes, des méthodes classiques, etc. Ça donne beaucoup plus de liberté pour aborder les concepts.
Oui, exactement, parce que c'est vrai que dans le cadre de notre métier, et c'est pas une tare de parler comme ça, mais c'est vrai que les mathématiques, ça reste très rigoureux et on ne peut pas employer les mots qu'on voudrait en classe. Mmh. Enfin, les employer à l'oral, c'est pas gênant, mais c'est vrai que dans une trace écrite, dans un cahier, faut rester vraiment très rigoureux. Mmh. Et c'est vrai que sur Internet, on se dit, bon, sur Internet, je ne suis plus prof devant des élèves, je parle et le but, c'est que les élèves comprennent. Il n'y aura pas d'inspecteur qui va venir vérifier ce que je fais, etc. Et on a peut-être un peu moins peur, je ne sais pas, et on se sent plus libre en fait. On se sent beaucoup plus libre et ça se ressent dans la compréhension pour les auditeurs.
Merci à vous Stéphanie pour votre témoignage à Lomé. Tiens, un autre auditeur nous appelle, toujours du Togo, Abel, qui a 30 ans, qui est professeur de mathématiques en collège. Bonjour Abel.
Bonjour.
Vous avez posté, d'ailleurs, je vous remercie, une photo de votre classe en plein contrôle de maths que vous pouvez retrouver, les voisins et les voisines, sur notre compte Instagram 7 milliards RFI. Vous, comment vous procédez avec vos élèves? Vous avez dit au standard, il y a un vrai nivellement par le bas dans mon pays.
Oui. Le niveau depuis quelques années en mathématiques dans le pays est en train de baisser. Et nous, enseignants, nous sommes confrontés chaque jour à cette baisse de niveau. Mais le problème, c'est un nouveau programme qui est arrivé du nom de Approche par compétence. Vous savez, les mathématiques, un de mes prédécesseurs l'a déjà dit, c'est une science assez rigoureuse. Et la mathématique, pour aller plus vite, c'est une matière qui fait appel au raisonnement.
Oui,
on demande à l'enfant de réfléchir et de prouver des informations ou des axiomes qui avaient été déjà démontrés par d'autres grands mathématiciens.
C'est ça. Et le professeur de maths, d'ailleurs, en principe, ne doit pas accepter que le résultat soit bon si l'élève n'a pas pu montrer comment il était parvenu à ce résultat.
Voilà, c'est ça le nœud. Et pourtant, la façon, je dirais que la façon dont le nouveau programme demande à l'enseignant d'évaluer les élèves fait que, en fait, lorsque l'enseignant, on oblige l'enseignant à donner à accorder des points aux élèves, même qui jouent de la loterie. C'est-à-dire qu'on dit c'est vrai ou faux, il met vrai sans savoir pourquoi il a mis vrai, on lui donne le point. Donc l'enfant doit justifier pourquoi il pense que c'est vrai.
Ouais.
Donc,
alors vous, en tout cas, vous avez créé une association, Groupe Les Éclaireurs, avec une organisation de concours scientifiques inter-écoles. Hein. Et justement, c'est un concours qui teste la capacité de raisonnement des élèves de la 6e à la 3e. Est-ce que vous voyez de l'enthousiasme du côté des élèves?
Oui, on voit beaucoup d'enthousiasme au niveau des élèves. Et il faut dire que le concours est parti de la première édition avec 50 candidats. Ouais. Et à la cinquième édition, l'année dernière, on était avec près de 700 candidats. Ah, donc, oui. C'est-à-dire que la progression est énorme.
Ouais.
Maintenant, et secondo, ce qu'on remarque au niveau du concours, c'est que depuis 3 ans déjà que le nouveau système est arrivé, et les enfants n'arrivent plus à donner le meilleur d'eux-mêmes en termes de raisonnement scientifique comme avant. Et ils s'attendent plutôt à des épreuves du genre on propose des réponses, on leur demande de choisir.
Sur des connaissances. Et comme vous le dites si bien, il s'agit pas seulement de proposer des concours pour amuser les élèves, mais si on ne les forme pas mieux davantage, effectivement, ça pose un problème. Merci beaucoup, Abel, de nous avoir appelé. Jean-Yves Chevalier, je sais que vous dites souvent que on parlait du déclin des mathématiques en France et de ses conséquences. Vous dites finalement, certes, les maths, c'est devenu la matière qui sélectionne. Autrefois, c'était le latin. Vous dites que le déclin des maths a accompagné la désindustrialisation du pays.
Ah oui, je pense que si on met en parallèle les deux phénomènes, c'est frappant. On a d'une part une désindustrialisation du pays, une promotion d'une formation de type Sciences Po pour les élites, où justement les mathématiques sont absentes. Donc, de ce point de vue, on peut se dire que la promotion de Sciences Po a été un démenti à l'obligation des mathématiques pour la sélection des élites. Et d'autre part, on a eu une certaine sociologie de l'éducation dans la fin des années 80. Je vous rappelle un livre qui s'appelait « Le niveau monte ». Qui fait plutôt rire jaune actuellement, de Baudelot et Stablet en 1989, qui nous expliquait que tout allait bien, que le niveau montait et que ça allait continuer comme ça, etc. Donc il y a eu quand même
que
des
erreurs
politiques.
Que le niveau montait grâce à la massification de l'éducation, c'était ça le raisonnement à l'époque.
Oui, voilà. Bon, il n'est pas question de dire que la massification, c'est une mauvaise chose, etc. On a été capable de l'après-guerre aux années 90, de massifier l'enseignement et d'augmenter le niveau en même temps. Bon, ceci dit, après, dans un pays qui se vivait comme un pays de services, etc., où l'industrie disparaissait, on s'est dit que peut-être que les mathématiques, c'était pas si nécessaire que ça, que la massification, ça allait coûter très très cher, et que dans ces conditions, bah, peut-être qu'on pouvait faire l'impasse sur un certain nombre de choses, et on en voit les conséquences aujourd'hui. Et je pense que... Mais cette espèce de...
Sous-entendu, laissons les Chinois fabriquer nos biens d'équipement et faire les calculs à notre place aussi ?
Bah, c'est à peu près ça, oui. Alors, le problème, c'est qu'il y avait une espèce de consensus. Il y avait une vision, disons, libérale qui allait dans ce sens. Et puis, d'autre part, on avait une sociologie de l'éducation qui, dans une lecture de Bourdieu assez primaire, disait que le savoir, c'est un mode de domination d'une classe sur une autre. Donc, si on évacue les savoirs, ça ira peut-être mieux.
Ouais.
Or, on n'est pas professeur sans se dire que il y a des choses qui sont extraordinaires, qui, selon la formule de Régis Debray, nous précèdent, nous excèdent et nous succèdent, et qui font que si on est un professeur ou si on est un élève, il y a de l'émerveillement, il y a des choses, et ces choses ne peuvent pas être amenées
Jean-Yves Chevalier, vous êtes professeur en classe préparatoire. L'étude TIMSS, elle porte sur le niveau en maths, sur le mauvais niveau en maths en classe de CM1, en classe de 4e. Est-ce que ça a des répercussions sur le niveau en maths pour les étudiants qui vont rentrer là dans les grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, puisqu'on a longtemps dit qu'on avait les meilleurs ingénieurs du monde en France?
Bah écoutez, je pense qu'un polytechnicien est toujours un polytechnicien avec un excellent niveau. Je pense que si vous prenez, par contre, les 50% d'élèves ingénieurs des écoles de moindre niveau, oui, il y a une grande répercussion, oui, bien sûr.
Monica Néagoy, le plan mathématique lancé en 2019 a mis le paquet sur la formation des enseignants du primaire, hein, 40 000 enseignants du primaire formés. Il va falloir combien de temps pour voir des effets de ce plan mathématique ?
Je pense, comme a dit Charles Torossian, qui est l'inspecteur général et qui est en chapeauté cette mission, il dit « Les résultats que nous voyons, c'est les résultats des années qui ont précédé. » On va dire 3-4 ans. On va voir,
voir un résultat.
Prochain.
Merci en tout cas à vous tous, Monica Niagoy. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la méthode de Singapour. Merci à vous, Jean-Yves Chevalier. Merci à vous, Salim Brighi. La chaîne YouTube, c'est Math et Ma Team. Vous enseignez donc des notions de mathématiques pour tous, hein, pour les jeunes et les autres. Dans quelques instants, on va retrouver la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar. Ce sera juste après. Choosing a Dream, High Levels. Hey. I did hit the flow, been lower than low. If life is a test, where the tutor did go? Yeah. I'm searching for truth and keeping it real. I picture my faults while I'm doing my dreams. Flapping my wings, I'm done with your games. While you had it easy, I was walking uphill. Finding your limits implies you to go. To go where they say you cannot. To go where they say you cannot. To go where they say you cannot. Oh, up and eat, baby. To go where they say you cannot. Like up and eat. Just go where they say you cannot. Finding your purpose is choosing a dream. Moving these mountains is facing your fears.
Failure your doubts and do what you have to do. Cause life doesn't wait.
Finding your purpose is choosing a dream. We all have a purpose out here. Hey, there's no need to hide. Ooh, ooh, ooh. Just show them your pride. Cause we all have a purpose out here. Hey, you've been down that road, losing no hope. Had all these problems, expected much more. Ready to lose about everything. You digged in yourself for what's left of a dream. Falling is done, now rising is left. That you have can turn up be real. Finding your limits implies you to go. To go where they say you cannot.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Enfants d'ici et d'ailleurs. Chaque semaine, le psychologue Ibrahima Girou donne des conseils aux parents. Bonjour Ibrahima Girou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue pour l'UNICEF à Dakar et aujourd'hui, une question que se posent énormément de parents du monde entier. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de défis à relever dans l'éducation des parents ? Beaucoup d'ailleurs de professionnels de l'enfance disent que être parent, c'est le métier le plus difficile du monde.
C'est vrai que ça aurait pu être plus simple. On ordonne une chose à nos enfants et ils la font. On leur interdit une chose, ils s'en éloignent. Et au bout du compte, ils ne feraient pas d'erreur dans la vie et ils seraient certainement des personnes parfaites. Et nous, nous serions des parents irréprochables.
Ouais. Le problème, c'est que ça ne se passe pas tout à fait comme ça dans la vraie vie, hein, Ibrahima Girou.
Hélas, non. Remarquez, si les enfants étaient des automates, des robots, ce serait plus simple. Mais ils sont vivants, Emmanuel. Ils sont sensibles, ils sont réactifs, mais ils sont également proactifs. Ces particularités font que nos enfants ne sont pas obligés de se comporter comme nous le voudrions. Et puis, il faut le dire, Emmanuel, il y a plusieurs façons de faire du bien. Par exemple, partager son repas, offrir son attention, offrir un sourire. Et le problème vient quand le parent ne voit qu'une seule façon d'être quelqu'un de bien et fait tout, de bonne foi sans doute, pour que l'enfant suive cette voie. Donc, en étant ainsi convaincu d'avoir raison, le parent ne voit pas la perspective de l'enfant qui lui aussi veut certainement être quelqu'un de bien. Donc Emmanuel, avez-vous déjà entendu ou vu un enfant dire qu'il veut être quelqu'un de mauvais?
Non, c'est vrai.
Non, c'est clair. Donc si le parent est quelqu'un d'autoritaire, il ne tardera pas à s'étouffer avec sa propre autorité car il ne se rend pas compte que l'autoritarisme du parent érode l'autorité parentale, comme la rouille ronge le fer. Donc la fin ressemble un peu à celle d'un serpent étouffé d'avoir mordu et dévoré son propre corps en croyant avaler une proie facile. Et en réalité, Emmanuel, l'enfant est assurément un gros, gros morceau. Donc, tenir compte de la perspective de son enfant préserve et augmente durablement votre autorité, chers auditeurs, chers parents.
Est-ce qu'il n'y a jamais d'enfant difficile, par nature, néanmoins, vous le disiez, jamais un enfant ne va dire « je veux être mauvais ». Mais il y a tout de même des enfants qui sont par nature plus difficiles que d'autres.
Je vais vous donner la réponse de mon fils. Il me dit qu'on n'est pas difficile, on le devient. Donc Emmanuel, l'humain naît avec la capacité à apprendre. Et en réalité, tout s'apprend. Les comportements, les relations, l'amour, la haine, le courage, la volonté, tout s'apprend. L'idée même que l'enfant soit par nature difficile et est confronté par les lois naturelles, par l'alternance des jours et des nuits, par l'existence de la possibilité de changer les choses et de se transformer soi-même chaque jour en mieux. Et l'enfant n'est pas, il devient parce qu'il grandit. Donc grâce à cette possibilité de changement, les parents ont donc entre leurs mains les moyens pour aider leurs enfants à devenir de bonnes personnes. Mais pour cela, Emmanuel, il leur faut avoir un cœur suffisamment grand pour respirer un grand coup et laisser l'enfant respirer à son tour. Il leur faut un grand esprit pour bien voir que dans la multiplicité et dans la diversité qui sont présentes dans la nature, dans les plantes, dans les animaux, il y a une sagesse, une riche leçon pour libérer les voies de la créativité du parent. Cette créativité va s'enrichir de la voix de nos enfants, de leurs erreurs, mais également de leurs rêves.
Et quand la trajectoire d'éducation est facile, ça existe néanmoins.
Bon, disons que dans le domaine de l'éducation des enfants, ce n'est pas tout bien ou tout mal, justement. C'est comme une sorte de continuum dans les capacités du parent à gérer les défis quotidiens, donc chaque jour. Ce n'est pas parce que j'ai réussi hier que je vais réussir aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que j'ai échoué aujourd'hui que je vais continuer à échouer demain. Donc le curseur se déplace, Emmanuel, constamment. Et il faut s'imaginer que les défis sont comme les vagues qui cherchent sans cesse à frapper le rivage et à dévaster nos terres. Donc les réponses des parents seraient comme les forces qui organisent un peu le reflux. Donc la mission d'éducation consiste alors dans une sorte de combat interminable à gérer cette éternelle respiration. Pour répondre à votre question, Emmanuel, quand le parent raconte que ça se passe bien, il faut entendre qu'il gère bien cette alternance entre les orages et les éclaircies, entre les moments difficiles et les moments un peu mieux réussis.
Oui, c'est l'occasion de démystifier ces parents à qui tout semble sourire avec leurs enfants.
Exactement.
D'où l'intérêt de s'intéresser au phénomène météo. Alors, la question de la semaine à méditer, Ibrahima Girou.
Emmanuel, si le métier de parent devait être si facile, pourquoi les enfants ne tomberaient-ils pas du ciel au lieu de naître des entrailles des gardiennes de la vie ?
À méditer, Ibrahima Girou, et bien sûr, on peut réécouter toutes vos chroniques sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins et en téléchargement en podcast « Parents, enfants d'ici ». Et d'ailleurs, merci à vous pour toutes ces méditations et ces conseils, Ibrahima Girou.
Merci, Emmanuel, au revoir.
À très bientôt pour une nouvelle chronique à Dakar. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur la symbolique des vêtements que nous portons au quotidien. Depuis des mois, voilà que les masques en tissu ou en papier mangent la moitié de notre visage et ça nous semble désormais naturel. Les gilets jaunes en France sont aussi des cris de colère ou encore il y a les foulards verts en Argentine qui sont désormais une victoire pour le droit à l'avortement. Retour sur ces morceaux d'étoffe qui parlent et qui se décrètent symboles. À demain.
Bienvenue au théâtre.